question dont la réponse en surprendra plusieurs. Pourquoi l'homme est-il incapable de cesser de polluer la planète? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui nous ouvrira les yeux aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je crois que pour certains, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui vont sembler un peu alarmants. C'est vraiment bon d'être un croyant et d'être, par le fait même, capable de discerner ce qui est pour les élus de Dieu à travers les événements qui viendront un jour sur cette terre. Je pense que vous allez me comprendre en entendant les questions suivantes et surtout en entendant les réponses qui viendront après. Alors voici les questions. Y a-t-il des similitudes entre les plaies d'Égypte et celles qui auront lieu sur la terre un jour? Est-ce qu'un feu détruira littéralement un tiers de la terre un jour? Est-ce vrai qu'un tiers des créatures qui sont dans la mer et qu'un tiers des navires seront détruits un jour? Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui auront rejeté Dieu au moment de la grande tribulation? Pourquoi semblons-nous incapables de freiner nos ardeurs pour polluer la planète? Est-ce qu'on peut réellement s'attendre aux catastrophes qui sont prédites pour le temps de la grande tribulation? Demeurez des nôtres. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est sur le point de nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, ça m'épate de voir que tu touches vraiment à tous les sujets dans ta parole, même la pollution qu'il y a sur cette terre en ce moment. Alors je te demande de transformer nos vies une fois de plus aujourd'hui, de nous amener encore plus près de toi alors qu'on va mieux te connaître. Toi, le seul Dieu, le seul véritable. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, nous poursuivons notre étude du livre de l'Apocalypse au chapitre 8. La première trompette. Les arbres incendiés. Lisons Apocalypse, chapitre 8, verset 7. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Ici, Dieu juge directement la terre. Ce jugement tombe sur toute vie végétale, du plus petit brin d'herbe jusqu'aux arbres majestueux. Même s'il s'agit seulement du tiers des plantes, l'impact sur la terre est considérable. Le feu est l'instrument du jugement de Dieu. On se rappelle que l'eau a été l'instrument du premier jugement global de Dieu à l'époque du déluge. Mais ensuite, Dieu a promis qu'il n'utiliserait plus l'eau pour détruire la vie sur terre. Le feu est maintenant utilisé pour purifier la terre. Les forêts et les prairies couvertes d'herbes seront partiellement détruites par le feu. Les cyniques pourraient dire que, si Dieu veut détruire les forêts, il ferait mieux de se dépêcher, car l'homme pourrait très bien finir de saccager les forêts avant cela. Il lui couperait l'herbe sous le pied, si l'on peut dire. Les plantes ont été créées en premier, et elles seront détruites en premier. Dans le compte-rendu de la création, que nous pouvons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 11, Dieu a commencé à créer les plantes après avoir mis de l'ordre dans la configuration terrestre. Gardons en mémoire qu'il s'agit ici d'un jugement littéral sur la vie végétale au même sens que la septième plaie d'Égypte était littérale. Relisons Exode, chapitre 9, versets 24 et 25. « Il tomba de la grêle, et le feu se mêla avec la grêle. » Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. J'ai déjà mentionné qu'on rencontre des similitudes frappantes entre le jugement des sept trompettes et les plaies d'Égypte. Ce n'est pas par hasard. Si nous retournons dans le livre de l'Exode, nous voyons que les plaies envoyées par Dieu doivent être interprétées dans un sens littéral. Je ne connais pas de croyant qui n'admet pas la réalité des plaies d'Égypte. Si c'est le cas, Nous devons aussi admettre que les jugements de l'Apocalypse doivent aussi être interprétés de la même manière. Je ne sais pas par quel processus d'herméneutique on peut admettre une valeur littérale à l'épisode de l'Exode sans en faire de même avec les sept trompettes de l'Apocalypse. À moins, bien sûr, que la Bible elle-même indique qu'il s'agit de symboles. Mais ce n'est pas le cas ici. Lorsque la grêle est tombée sur l'Égypte, le récit nous rapporte que toutes les herbes des champs et tous les arbres ont été détruits entièrement. Mais, dans l'Apocalypse, la destruction se limitera à un tiers de la végétation terrestre. La deuxième trompette. La mer devient du sang. Lisons Apocalypse, chapitre 8, versets 8 et 9. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Les océans occupent la majorité de la surface de notre planète. Ils sont affectés à leur tour par le jugement direct de Dieu. À la création, il a fixé les limites entre l'eau et la terre en même temps qu'il a créé les plantes, comme on peut le lire et le voir dans Genèse, chapitre 1, versets 9 et 10. Le langage utilisé dans ce passage se fait remarquer par sa précision. L'apôtre Jean ne dit pas qu'une grande montagne embrasée par le feu fut jetée à la mer. Au lieu de cela, il indique quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu. Il essaie de nous décrire une masse ou une force qui ressemble à une grande montagne embrasée par le feu et qui a été jetée dans la mer. Nous devons être vigilants en lisant ce passage. Trop de commentateurs lisent l'Apocalypse en vrac et disent ensuite que tout le contenu est symbolique. Mais leurs explications sont nébuleuses et peu convaincantes. La masse décrite ici ressemble à une montagne, mais elle peut être tout aussi littérale et tangible que la montagne décrite dans Jérémie chapitre 51 verset 25 où l'Éternel parle de Babylone. Je vous en fais la lecture. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Une masse littérale tombe dans une mer littérale et un tiers des navires sont littéralement détruits. Si nous laissons simplement l'apôtre Jean parler, tout devient très clair. Inutile de se creuser la tête à chercher des symboles là où il n'en existe aucun. Même si cette masse ressemble à une montagne sans en être vraiment une, cela ne fait pas d'elle un symbole. Cette masse ou cette force est jetée dans la mer. J'ignore exactement de quoi il s'agit, et cela pour deux raisons. Premièrement, l'apôtre Jean ne nous le dit pas. Il ne l'a pas dit à personne, donc je ne crois pas que personne puisse répondre à cette question. Deuxièmement, je ne m'attends pas à être encore de ce monde lorsque les habitants de la terre verront cela aux nouvelles du soir. Nous recevons surtout de mauvaises nouvelles lorsque nous écoutons le téléjournal, et les choses ne s'amélioreront sans doute pas jusqu'à la grande tribulation. Je ne serai plus là, car j'aurai été enlevé avec l'Église avant la grande tribulation, à moins que je ne meure avant cela. Mais cela ne signifie pas que cette question me laisse tout à fait indifférent. La grande tribulation sera une période tragique pour le monde qui aura rejeté Dieu et qui aura ridiculisé sa parole. Le croyant souffre dans son cœur quand il pense aux souffrances qui attendent l'impie dès maintenant. C'est pourquoi la lecture du livre de l'Apocalypse devrait pousser l'Église à témoigner de la parole de Dieu avec une ardeur renouvelée. Nous devrions consacrer nos énergies, notre volonté et nos pas à faire connaître cette parole par tous les moyens que Dieu met à notre disposition. Le Seigneur Jésus lui-même nous a confié cette mission avant de remonter au ciel. Nous ne pouvons pas empêcher le jugement de Dieu de sévir contre la terre. Mais nous pouvons faire de notre mieux pour réduire au minimum la population qui sera demeurée sur terre à ce moment. De cette manière, moins de gens auront à souffrir de la grande tribulation et plus de gens pourront se réjouir au ciel avec l'Église pendant cette période. Certains ont émis l'opinion que la masse ressemblant à une montagne embrasée pouvait être un météorite. Pour ma part, je pense plutôt que ce météorite arrivera à la troisième trompette. La voici, cette troisième trompette. L'eau douce devient amère. Apocalypse, chapitre 8, les versets 10 et 11. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Là encore, au train où vont les choses, on peut se demander s'il restera des eaux à polluer au moment de la grande tribulation. Depuis une cinquantaine d'années, l'homme a pollué d'une manière effroyable l'air, la terre et l'eau. Comprenez-moi bien, je ne prêche pas en faveur d'un retour intégral à la nature. La science et la technologie nous ont apporté sans conteste de grands bienfaits. Mais la question se pose, pourquoi semblons-nous incapables de freiner nos ardeurs autodestructrices? Je ne pense pas que cela soit par manque d'éducation ou d'intelligence. Les pays les plus pollueurs sont également les mieux renseignés. Ne devrions-nous pas considérer plutôt notre convoitise, notre soif de profit, de pouvoir? Car les enjeux deviennent de plus en plus clairs. Ce sont la survie de l'espèce humaine et de toutes les autres formes de vie sur Terre. Tout le monde est contre la pollution, mais combien d'entre nous sont prêts à adopter le covoiturage ou le transport en commun pour se rendre au travail? Nous sommes pour les grands idéaux, en autant qu'ils ne remettent pas en question notre confort personnel. Nous avons le choix. Ou bien nous commençons à nettoyer les dégâts causés par la pollution, ou nous continuons de laisser aller les choses en se disant que ce n'est pas de notre faute. Certains attendent que les grandes compagnies paient pour les dégâts qu'elles causent à l'environnement. Mais, quand on aborde la question avec elles, elles déménagent dans un autre pays moins exigeant. Les pays développés refusent de signer des accords en prétendant que cela ne sert à rien si les pays en voie de développement ne signent pas aussi et tout le monde se renvoie la balle. Que l'on regarde à l'échelle d'une personne, d'une corporation ou d'un pays, il n'est pas difficile de reconnaître l'influence du péché. Car, depuis le début, une des caractéristiques du péché est de chercher à blâmer les autres. Dans le troisième chapitre du livre de la Genèse, Adam et Ève commettent le premier péché. Et quand Dieu leur demande des comptes, nous assistons à la première querelle de ménage. Dans Genèse, chapitre 3, verset 11, Dieu pose une question claire à Adam. « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Si vous pensez que l'homme a répondu à cette question par un simple « oui » ou « non », vous connaissez mal la nature dévastatrice du péché. Que répond Adam au verset suivant? « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Il admet avoir mangé de l'arbre, mais seulement après avoir accusé directement la femme comme si elle lui avait forcé la main, ce qui n'est pas du tout le cas. En outre, il accuse indirectement Dieu. « La femme que tu as mise auprès de moi. » En d'autres mots, si Dieu n'avait pas mis la femme à ses côtés, il n'y aurait pas eu de problème. Nous avons donc ici un refus évident d'admettre sa responsabilité personnelle. Dieu se tourne alors vers la femme et au verset 13, toujours du même chapitre, chapitre 3 du livre de la Genèse, il lui demande « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Encore ici, la faute est admise seulement après avoir pointé l'autre du doigt, en cherchant à lui faire porter le blâme. Un peu plus tard, le fils d'Adam, Caïn, assassine son frère Abel. Écoutez sa réplique. Dans Genèse, chapitre 4, verset 9, lorsque Dieu lui demande des comptes, « L'Éternel, dit à Caïn, où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Caïn ne pouvait pas faire porter le blâme de son meurtre sur une autre personne, mais le refrain reste le même. « Ce n'est pas mon problème. » Et encore aujourd'hui, ce principe du péché opère encore aujourd'hui. Demandez à une personne, une corporation ou à un pays, qui est responsable de la pollution? Et vous entendrez toujours la même chose. « Oh, ce n'est pas nous. » Et si vous pensez que l'homme sera en mesure de régler le problème de la pollution environnementale sans avoir au préalable réglé le problème du péché, vous êtes plus optimiste que moi. Le péché a été la première pollution, une pollution spirituelle. Et sans l'aide de Dieu, l'homme ne peut rien faire pour régler ce problème de pollution intérieure. Nous avons déjà souligné que la guerre vient du cœur de l'homme, et cela est tout aussi vrai pour la pollution. Selon les biologistes, la loi de la préservation est une impulsion fondamentale chez l'homme. Selon la Bible, l'homme pécheur fuira ses responsabilités en cherchant à blâmer les autres. En regardant autour de vous, laquelle des deux pulsions est la plus forte à l'échelle mondiale? Le péché nous rend orgueilleux. Nous aimons penser que nous n'avons besoin de rien ni de personne. Pendant longtemps, nul ne pensait que nous manquerions un jour d'air pur, d'eau potable ou de terre cultivable. Nous avons puisé dans les ressources naturelles sans rendre de compte à personne et surtout pas à Dieu. Mais un jour, nous devrons tous rendre personnellement compte de nos actes devant notre Créateur. Et nous ne pourrons pas nous en tirer en blâmant les autres. Au temps de Moïse, lorsque les Israélites ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés à Mara, où les eaux étaient amères. Le peuple avait soif, et dans le livre d'Exode, chapitre 15, verset 25, nous pouvons lire cette indication. Comment ce problème très concret s'est résolu? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Après avoir sauvé le peuple de la soif dans le désert, Dieu a éprouvé son obéissance. Un jour, quand la patience de Dieu devant la rébellion de ses créatures aura atteint ses limites, le contraire se produira. Il jettera une étoile ou un météore dans l'eau douce et celle-ci deviendra amère. Le péril de l'absinthe. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, précise le texte de l'Apocalypse. Il est possible que, pour certains, le fait que le tiers des eaux soit changé en absinthe paraisse être une bénédiction. Un peu comme lorsque Jésus a changé l'eau en vin, car, voyez-vous, la culture française et l'absinthe ont entretenu une relation assez ambiguë. Commençons par les faits. Lorsque vous consultez une véritable encyclopédie ou un dictionnaire, l'absinthe est une plante amère, vénéneuse et toxique. En un mot, l'absinthe est un poison, point à la ligne. Cette mise au point initial est nécessaire car on tire de cette plante une boisson alcoolisée. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, cet alcool était fort prisé en France, jusqu'au moment où on s'est aperçu de son effet catastrophique sur la santé physique et mentale de ses adeptes. Il a été ensuite interdit d'en fabriquer. Mais, depuis quelques années, les lois ont tendance à s'assouplir et la fabrication redevient légale sous certaines restrictions. Nous avons ici un autre exemple où la recherche du plaisir devient plus importante qu'une bonne santé. Actuellement, dans notre monde évolué, ces exemples deviennent de plus en plus fréquents, de la cigarette à la méthamphétamine. Dans un cas comme dans l'autre, aucune étude scientifique ni aucune photo ne semble en mesure de préserver les victimes du danger. La cigarette et les drogues synthétiques n'existaient pas au temps de la Bible, mais cette dernière est formelle sur l'absinthe. écoutons cette citation du nouveau dictionnaire biblique d'Emmaüs. L'absinthe désigne l'amertume d'une grande souffrance ou d'un grave châtiment, comme il est écrit dans Jérémie chapitre 9, verset 15. C'est pourquoi, ici par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici. Je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Il représente aussi l'intoxication produite par le péché, comme on peut le voir, cette fois, dans le livre du prophète Amos, chapitre 6, verset 12. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe? Dans l'Ancien Testament, quand un homme labourait un rocher avec ses bœufs, on avait tendance à remettre en question ses facultés de jugement. L'absinthe et le péché produisent le même effet. L'étoile doit être interprétée dans son sens littéral. Elle est un météore contenant un poison qui contaminera le tiers de la réserve d'eau douce sur la terre. Le nom de cette étoile suggère qu'il s'agit d'un jugement de Dieu en conséquence à la corruption, la droiture en poison, et l'injustice des hommes, le fruit de la justice en absinthe. Nous allons lire maintenant le texte concernant la quatrième trompette, la lumière des astres affaiblie. Chers amis, lisons Apocalypse, chapitre 8, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Une autre création de Dieu, trop souvent prise pour acquise, est le soleil. Nous en avons besoin pour vivre. Au son de la quatrième trompette, la lumière du jour et la lumière de la nuit perdent le tiers de leur intensité. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus a annoncé que les corps célestes seraient affectés de cette manière. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, le verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. On peut difficilement imaginer l'influence de ces phénomènes sur la nature et les récoltes. Nous avons déjà vécu des crises d'énergie, mais rien de semblable. Par contre, la colère de Dieu sera encore mesurée à cause de cette promesse faite dans Genèse chapitre 8 verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Passons au verset 13 du livre de l'Apocalypse, chapitre 8. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Le mot « malheur » est répété trois fois alors qu'il reste trois trompettes à sonner. Pour cette raison, les trois derniers jugements sont parfois appelés les jugements de malheur. Les quatre premières trompettes signalaient de grandes catastrophes, mais le pire reste encore à venir. J'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte. Il s'agit d'un aigle qui parle littéralement. Si Dieu peut faire parler les perroquets, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas faire parler un aigle, un serpent ou tout autre animal. Dieu est tout-puissant et il est souverain. Il règne sur sa création. Cher ami, est-ce qu'il règne sur ton cœur? Est-ce qu'il est devenu le Seigneur de ton existence et, surtout, de ton éternité? Sinon, eh bien, à toi d'agir maintenant. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Apocalypse chapitre 9, les versets 1 à 6. Bonne lecture!
Merci beaucoup, Régent. Combien c'est rassurant, mes amis, d'être un enfant de Dieu. Quand on considère ce qui est réservé à cette planète dans un temps futur, bien sûr, on ne sait pas quand toutes ces choses vont arriver, c'est-à-dire celles dont Régent nous a parlé aujourd'hui, mais on sait qu'elles vont arriver, mais que l'Église de Jésus-Christ en sera épargnée. Ouf, merci Seigneur. J'ai bien aimé ce que Réjean nous a partagé à propos de la pollution de la planète. J'ai trouvé ça bon quand il a dit que les gens se renvoyaient la balle, mettant le blâme sur les autres et ne faisant rien eux-mêmes. Et il a dit que peu importe si on regarde à l'échelle d'une seule personne ou d'une corporation ou d'un pays, il n'est pas difficile de reconnaître que le vrai problème, c'est le péché. Et bien sûr, il nous a donné l'exemple d'Adam et Ève. Et quand ils ont péché en mangeant le fruit défendu, Adam a blâmé Ève et Ève a blâmé le serpent. Vous trouvez pas que ça nous ressemble, mes amis? L'influence du péché, les conséquences du péché. Et Réjean a ajouté cette phrase qui est tellement vraie. Il a dit, « Si vous pensez que l'homme sera en mesure de régler le problème de la pollution environnementale, sans avoir au préalable réglé le problème du péché, vous êtes plus optimiste que moi. » Et il a dit que le péché avait été la première pollution, une pollution spirituelle. Et sans l'aide de Dieu, l'homme ne peut rien faire pour régler ce problème de pollution intérieure. Alors, mon ami, j'ai une question à te poser. Est-ce que la question du péché est réglée pour toi? Tu es peut-être une bonne personne, donc cette question n'est peut-être jamais venue à ton esprit avant aujourd'hui. Mais permets-moi de te citer ce que Paul nous dit. Dans le 3e chapitre de son épître aux Romains, au verset 10, il dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et au verset 23, il dit que tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Alors, mon ami, même si tu es une bonne personne, il ne suffit qu'un péché dans ta vie pour faire de toi un pécheur, une pécheresse. Tout comme il ne suffit qu'une pomme dans un arbre pour qu'on puisse dire qu'il est un pommier. Alors, mon ami, aimerais-tu échapper au châtiment éternel qu'on mérite tous pour nos péchés? Tourne tes regards vers Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. C'est pour nous qu'il est venu sur cette terre, sans jamais pécher lui-même, mais pour prendre notre condamnation sur lui, en se laissant crucifier. Et avant de mourir, il a dit, « Tout est accompli. » Donc, mon ami, tu n'as rien à accomplir. Tu n'as qu'à croire en Jésus seul, pour le pardon de tes péchés. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Demande pardon à Dieu, sincèrement, et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il a dit lui-même, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » C'est extraordinaire de vivre sur cette terre en étant certain qu'on a déjà la vie éternelle, que si on meurt aujourd'hui ou demain, on est certain d'aller tout droit au ciel dans la présence de Dieu. On ne mérite pas d'aller dans la présence de Dieu. On mérite la condamnation éternelle. Mais Dieu veut tout effacer tes péchés, mon ami. Tourne tes regards vers Jésus et reçois le don gratuit de la vie éternelle.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.